Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Vous suivez les programmes de Studio Tamani sur 75 radios et 3 télévisions à travers le Mali et c'est diffusé également en direct sur Facebook. Le Grand Dialogue de ce soir a pour thème économie, à qui profite la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Et nous avons comme invité 3 personnes, professeur Oumar Boiré, économiste, chercheur au Centre de Recherche en Sciences Économiques et Sociales, Nkoni, Wali Tekete, également économiste, et docteur Etienne Fakabassissou, co-chercheur au Centre de Recherche et d'Analyse Économique, Politique et Sociale CRAPEST. Je suis Mouhamadou Touré, chers invités, auditeurs et téléspectateurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
ZLECAF, la zone de libre-échange continentale africaine. Le lancement a été fait il y a quelques jours à l'occasion du 33e sommet de l'Union africaine à Niamey au Niger. Et il faut rappeler que l'adoption de la feuille de route et les modalités de son fonctionnement ont été les principales conclusions de cette réunion des dirigeants africains. Et ils sont 54 pays signataires du texte, 27 dont le Mali l'ont ratifié. On va écouter ce papier de Assetou Kanté qui était notre envoyé spécial sur place.
C'est parti désormais pour la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF. Cette zone va augmenter le commerce intra-africain et le développement du continent, nous explique Issoufou Mahamadou, président du Niger et champion de la ZLECAF.
On dit souvent que l'Afrique est riche de ses matières premières. En réalité, quand on regarde la valeur ajoutée que nous obtenons de nos matières premières, on peut conclure au contraire que l'Afrique est pauvre de ses matières premières. Si nous voulons que les matières premières enrichissent l'Afrique, il faut transformer ces matières premières. C'est cela aussi qui permettra de renforcer d'augmenter le commerce intra-africain. Donc, toutes les difficultés, tous les défis sont bien identifiés. Et ce que je constate, c'est qu'il y a une volonté politique derrière, d'avancer, de mettre fin à l'affaiblissement de notre continent. La nécessité de nous unir, tout le monde en est, je crois, conscient.
L'adoption d'une feuille de route par les chefs d'État et gouvernement a également été dévoilée, ainsi que la mise en place des 5 instruments. Il s'agit entre autres des offres tarifaires en ligne, le système de paiement numérique et l'Observatoire africain du commerce. Cependant, les responsables de la ZLECAF ont mentionné un important défi à relever, c'est celui de la sécurité. Selon le président de la Commission de l'Union africaine, l'insécurité est en train de donner un coup dur au commerce en Afrique. Moussa Faki Mahamat.
C'est le commerce qui a fait la richesse des hommes et la richesse des nations. Nous sommes en plein Sahel et vous savez ce que cela coûte parce que vous le vivez au quotidien. Le commerce est bloqué du fait de l'insécurité. Là également, ça nécessite une attention toute particulière et la réponse doit être globale et notamment à travers le Conseil de sécurité des Nations Unies, dont c'est la vocation.
Autre grande conclusion de cette rencontre, c'est celle du choix porté sur le Ghana d'abriter le siège du secrétaire permanent de la ZLECAF. Il a aussi été indiqué que c'est dans un an que la zone de libre-échange continentale va débuter, c'est-à-dire le 1er juillet 2020. De Niamey, Assetou Kanté pour Studio Tamani.
Merci Assetou Kanté pour ce point à travers ce reportage. Alors, professeur Oumar Boiré, certains pensent que la ZLECAF est une bonne chose, mais ils estiment que les autorités africaines ont mis la charrue avant les bœufs. Est-ce que c'est votre avis?
Monsieur Touré, je ne suis pas de cet avis. Je pense que pour pouvoir réunir les différents États et pour les amener à prendre une décision, on ne peut pas attendre que tout soit au point avant de lancer le processus. On a vu le même problème avec la création de l'euro, la monnaie unique européenne, et il n'y avait pas d'accord immédiat sur la création, mais bon, ça a été fait avant que certains pays ne soient prêts. Et donc, je pense que une fois que le processus est lancé, les ajustements se feront après pour essayer de corriger les retards et les divergences afin d'avoir un instrument qui puisse contribuer valablement au développement du continent.
Que pensez-vous de cette zone de libre-échange continentale africaine, Wali Tekete?
La ZLECAF, comme on vient de le dire, c'est un espace économique qui sera réduit et que c'est un espace qui va être très important pour un certain nombre de mesures. Tout simplement, si on se réfère à la conférence des Nations Unies pour le développement et le commerce, les chiffres en ce sens sont très éloquents. Dans la mesure où il y a une prévision d'environ 2220 millions de dollars de PIB cumulé de l'ensemble des pays africains à l'horizon 2020, également, il va y avoir une augmentation supplémentaire de revenus à hauteur de 16,1 milliards de dollars qui va être généré par les pays africains. Il est également important de noter que le PIB, toujours selon le même rapport, le PIB va s'accroître d'environ 3%. Le PIB des pays africains. Et à cela également, on va noter quand même un aspect très important, c'est-à-dire que le commerce intra-africain va s'accroître parce qu'à l'heure où je vous parle, ce taux est dans la marge de 15 à 17%. Mais d'ici 2022, ce taux va s'accroître d'environ 33%. Pour atteindre environ 60% en 2022. Taux qui est toujours en deçà du taux européen qui est entre 60 et 70%. C'est également important, cette zone de libre-échange, parce que tout simplement, ça va permettre la création d'un marché unique qui va regrouper en son sein environ 1,2 milliard d'individus, donc potentiellement des consommateurs. Donc rien qu'avec ces chiffres-là, on peut attester sans détour que cette zone de libre-échange qui est la ZLECAF est importante et sa création est utile à plus d'un titre.
D'accord. Docteur Etienne Fakaba Sissoko, à qui profite cette ZLECAF selon vous?
Je pense que la question, c'est surtout de savoir est-ce que... la question, du moins, n'est plus de savoir est-ce qu'elle est importante ou pas, cette zone économique, mais c'est surtout quelles sont les conditions, les mesures d'accompagnement qu'il faudrait pour que la ZLECAF puisse effectivement jouer tout son rôle, pour que les consommateurs qui seront, de mon point de vue, les premiers bénéficiaires, et au-delà, les États, à travers la création de richesses, à travers la croissance économique, puissent également rehausser le niveau de vie des populations. Mais ce qui est, de mon point de vue, important, c'est surtout de savoir que chaque fois que des États décident de se mettre ensemble dans un objectif commun, que c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est devenu presque une nécessité de se mettre ensemble. Parce que imaginez, les chiffres ont été rappelés tout à l'heure par mon collègue, mais souvenez-vous que l'Afrique tout entière ne dépasse pas les 3% de participation dans le commerce international. Et que 80% de ce que nous apportons au commerce international se fait sur la base de matières premières, donc de produits à faible valeur ajoutée. Et que de ce point de vue-là, dans ces conditions, il me paraît difficile de dire que la ZLECAF pourrait, dans l'état actuel des choses, apporter véritablement grand-chose à nos économies. Maintenant, ce qu'il faut, ce sont les mesures d'accompagnement qu'il faut définir. Parce que jusque-là, nos économies ont été des économies similaires. Or, le paradigme doit changer en faisant en sorte que nos économies deviennent des économies complémentaires pour que l'ensemble des besoins auxquels les populations africaines, de façon générale, font face, que ces besoins-là puissent être satisfaits. Et pour cela, il faut un véritable mécanisme de transformation de nos économies. Il faut une vraie politique d'industrialisation de nos économies. Prenez l'exemple, par exemple, de notre pays. Je parle sous le contrôle de mon professeur. Les agropôles, qui ont été une initiative salutaire à l'époque, ont été mis au placard. Pourquoi ? Par manque de vision, par manque de politique cohérente d'accompagnement de ces mesures. Or, si nous voulons véritablement peser dans le commerce, si nous voulons peser dans la transformation de nos produits, ce sont des politiques de ce genre qu'il faut effectivement mettre en place.
Alors, dans ce contexte actuel, à ceux qui pensent que la charrue a été mise avant les bœufs, est-ce qu'ils ont raison ?
Je pense que les deux peuvent aller ensemble. Aujourd'hui, il y a la nécessité de mettre cet outil-là en place ne souffre d'aucune ambiguïté. Mais là encore où il y a le problème, c'est est-ce que les mesures d'accompagnement vont être mises en place rapidement pour que le retard ne puisse pas véritablement être un handicap. Il y a un certain nombre de pays qui sont les puissants d'Afrique, l'Afrique du Sud, le Nigeria, qui étaient au tout début réticents même dans cette dynamique, mais aujourd'hui qui sont ceux-là qui défendent le mieux cette politique-là. Là encore, il y a un risque que les puissants, les puissants entre guillemets africains en tout cas, ne bouffent les petits pays comme le Mali ou comme le Bénin avec de faibles taux de transformation. Donc c'est pourquoi je dis qu'il y a un travail de fond à faire d'abord au sein de nos économies, mais que indépendamment de cela, les outils, les conventions, les normes peuvent être mises en place au niveau international, tout en mettant en place dans nos différentes économies de véritables politiques de transformation de nos matières premières. Quand vous prenez par exemple un pays comme le Mali, on est aujourd'hui à presque 16% de participation du PIB, du commerce dans le PIB, dans la formation du PIB de notre pays. Cela montre effectivement qu'il vient en troisième position des secteurs qui apportent au PIB. Donc un gros secteur de mon point de vue. Mais quand vous rentrez en profondeur, vous remarquerez également que ce sont des produits d'importation qui sont malheureusement dans l'assiette de nos ménagères qui sont nos principaux produits de consommation. Cela ne favorise pas, cela ne permettrait aucunement à une quelconque zone économique de pouvoir véritablement jouer son rôle. Donc il faut inverser les paradigmes, comme je le disais, faire en sorte que nos économies, au-delà de leur forte capacité de production de matières premières, puissent être véritablement des forces économiques de transformation de ces matières premières.
Professeur Boiré, certains pensent que cette ZLECAF va plus profiter aux pays industrialisés qu'à l'Afrique elle-même, parce qu'ils pensent qu'il suffira de rentrer avec, leur matériel, leur produit dans un pays pour pouvoir le distribuer dans tous les autres.
Non, ça, c'est pas tout à fait correct. Évidemment, ils vont en profiter, mais il y a des garde-fous dans le protocole de la ZLECAF qui consiste à donner un certain avantage aux pays africains qui sont membres. Parce que les grands géants de l'Afrique, à mon avis, que la ZLECAF réussira à former, c'est le Nigeria. Ce sera une économie africaine qui va avoir une dimension mondiale. L'Afrique du Sud aussi. L'Égypte aussi, et je pense que le Maroc aussi pourra. Et si ces pays ont une stature mondiale au niveau économique, ça pourrait exercer un effet d'entraînement les autres pays qui sont à la traîne, qui sont moins industrialisés.
Comme le Mali.
Comme le Mali, évidemment. Et je pense que ça va exercer une pression sur la majeure partie de ces pays pour qu'ils mettent en place leur structure industrielle, comme le docteur Étienne l'a dit. Nous-mêmes, nous y avons passé quand on était à la primature, quand on a lancé le programme des agropôles. C'était pour lancer les bases de l'industrialisation du Mali. Parce que sans industrie de transformation, on a très peu d'argent sur les produits primaires. Donc il faut les transformer.
Et sans industrie de transformation, est-ce que la ZLECAF va servir à quelque chose
pour le Mali? Ils ont quand même une provision de 10 ans pour que les gens se mettent à jour, de 13 ans pour les pays les moins avancés. Je pense que la politique industrielle du Mali, le nouveau Premier ministre qui est en même temps ministre de l'économie et des finances, c'est un économiste avéré, je pense qu'il tirera profit de cette situation pour pouvoir faire avancer.
Il est quand même ministre de l'économie depuis plusieurs années, on n'a pas vu un grand changement concernant
la politique. Oui, mais le changement vient de l'extérieur, Touré.
Pourquoi ça doit venir de l'extérieur?
Parce qu'une fois que ces gens-là vont commencer à déverser leurs produits, parce que l'Afrique du Sud et le Nigeria sont des pays avancés, une fois qu'ils vont commencer à déverser leurs produits au Mali, si nous ne voulons pas demeurer un pays de consommateurs, on sera obligé de mettre en place nos structures industrielles.
À ce stade, le Mali est un pays consommateur depuis plusieurs années et les autorités ne semblent pas être gênées par cette situation.
Oui, mais ça va provoquer le déclic.
Est-ce que vous pensez que ça va provoquer le déclic?
C'est à prendre avec beaucoup de prudence parce qu'effectivement, comme le professeur vient de le rappeler, la création d'une zone de libre-échange intra-africain présente des avantages tout comme des inconvénients. Parce que tout simplement, quand il y a le libre-échange intra-africain, ça va permettre à certains pays, hein, notamment le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud, qui sont les poids lourds du continent, à inonder nos marchés. Donc, lorsqu'ils vont inonder notre marché de leurs produits, ça va être quand même la mise en place d'une concurrence déloyale vis-à-vis de nos propres producteurs. Parce que quand bien même que nos agriculteurs, même nos éleveurs vont produire sur le plan local, donc les produits qui vont être importés de ces pays dont je viens tantôt de citer, il va avoir une concurrence par rapport à notre production locale. Donc, du coup, il va avoir une...
Est-ce que vous pensez que le Mali a peur de cette concurrence?
Bon, avoir peur de la concurrence, je ne saurais m'aventurer dans ça. Mais en tout cas, on doit faire face à la concurrence. Avoir peur, ce n'est pas cela, mais on doit faire face à la concurrence et résister. Et pour faire face à la concurrence, on doit mettre en place effectivement des politiques sectorielles de développement, notamment dans le domaine de l'agriculture, qui sait bien que 80% de la population du Mali vit de ce secteur-là. Donc on doit développer ce secteur-là à travers des réformes, notamment la révolution verte et la réforme agraire, dont je ne vais pas rentrer en détail. En tout cas, brièvement, on doit développer le secteur agricole pour intensifier les productions locales et créer de la valeur ajoutée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'avec la libéralisation, c'est-à-dire parce que le libre-échange suppose la suppression ou même la réduction des barrières douanières qui visent à permettre effectivement le libre-échange ou encore la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et même de la technologie. Donc, en un mot pour dire, effectivement, on doit faire face à cette concurrence. On doit également se spécialiser. Se spécialiser dans l'importation, ou même pas de tous les produits. On doit se spécialiser dans certains produits comme, par exemple, les produits manufacturés. Parce qu'aucun pays n'a intérêt, effectivement, à mettre l'accent sur les produits bruts. Et également, parallèlement à cela, les pays en développement comme le nôtre, on ne doit pas oublier la priorité des priorités. Parce que si on ouvre les frontières à travers la ZLECAF, ça peut permettre à nos entreprises de ruer vers les importations. Donc on va vouloir importer tout. Alors en important tout, ça va amener effectivement un problème sur le plan local parce que nos productions locales ne seront pas achetées. Donc à cela également, il faut comprendre que nous devrions également mettre en place une politique, comme je l'ai dit tout à l'heure, une politique pour pouvoir développer notre commerce parce que n'oublions pas, il y a la balance commerciale qui est là, qui est la différence entre les
exportations. On va parler plus en détail de la politique commerciale tout de suite. Okay. Wally Tekete pense qu'on doit faire face à la concurrence. Est-ce que le Mali peut faire face à la concurrence?
Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous n'avons pas le choix. Dès l'instant que vous avez une politique économique basée sur le libre-échange, ça veut dire que vous acceptez de faire d'ouvrir vos frontières aux autres pays, donc aux autres entreprises, à des concurrents potentiels pour votre économie et pour vos agents économiques. Mais de mon point de vue, ce qui ne doit pas nous faire perdre de vue le fait que le libre-échange ne suppose pas une absence totale de protectionnisme. C'est pourquoi moi je suis de ceux-là qui estiment qu'il y a un certain nombre de secteurs dans nos pays qui doivent être protégés compte tenu de leur caractère stratégique pour nos économies, compte tenu de leur apport dans la constitution du PIB de notre pays. Mais ce qui est aussi utile à relever, c'est qu'au niveau, au niveau de nos pays, le libre-échange suppose également la libre circulation des personnes et de leurs biens. Comment favoriser le libre-échange alors que pour un pays comme le Mali, nous avons besoin d'une sorte de visa pour nous rendre, par exemple, au Maroc. Alors que, dans le sens inverse, cela ne se vérifie pas. Comment favoriser le libre-échange si les entreprises, les acteurs économiques n'ont pas une facilité ou n'ont pas une liberté de vendre leurs produits, tel ou tel produit sur tel ou tel marché, sans aucune autre forme de barrière? Parce qu'on a parlé des barrières douanières, mais dans les mécanismes de protectionnisme des pays, il y a d'autres types de protection qui ne sont pas justement les barrières douanières, qui sont par exemple les quotas que l'on fixe aux entreprises internationales, qui sont par exemple des normes sanitaires ou des normes sécuritaires qu'on impose sur un certain nombre de produits. Tout ça pour limiter la venue de ces produits-là sur le marché local. Mais donc toutes ces formes-là sont des moyens pour faire face à la concurrence, pour protéger les entreprises.
Mais est-ce que ce n'est pas ce qui existe déjà dans l'espace CEDEAO?
Absolument, dans toutes les économies d'ailleurs, même les États-Unis.
Parce que les commerçants, les personnes qui veulent voyager, toujours se plaignent de cette corruption au niveau des circuits transfrontaliers.
Pas que de la corruption, des fois même c'est légal. Des fois même payer un certain nombre payer des prix, payer une certaine somme à l'entrée pour certains produits, ou même te refuser l'accès l'accès au visa pour acheter tel ou tel produit et sortir avec. Tout ça fait partie des moyens que dispose un État qui veut protéger son économie locale. Donc, de mon point de vue, c'est pas un mal en soi que de vouloir faire face à la concurrence en usant de ces moyens techniques-là qui existent au niveau des économies. Maintenant, ce qui est dangereux, c'est surtout que tous les pays s'y mettent et sur tous les secteurs stratégiques. Et de cette façon, la zone de libre-échange n'aura pas l'effet escompté. Voilà.
Professeur Boiré, est-ce que vous pensez que cette ZLECAF va fonctionner, que ça va marcher?
Oui, je pense que ça va fonctionner. Je pense que les préoccupations du docteur Etienne sont tout à fait justifiées. Et du reste, si vous revoyez le protocole de la ZLECAF, vous verrez qu'il y a des dérogations pour ces choses-là. Non seulement il y a des dérogations pour ces choses-là, mais il y a aussi la protection des industries naissantes. Sans ça, bon, les secteurs stratégiques d'un pays peuvent être laminés. Et aucun pays ne peut accepter cela. Parce que le but de l'opération, c'est que tout le monde gagne quelque chose. S'il y a des gens qui ne gagnent absolument rien du tout, ils n'ont pas intérêt à rester dans le système. Et même les grands pays qui se ruent maintenant là-dessus, alors qu'au départ, ils étaient réticents, ils ont compris qu'avec ce système-là, ils vont avoir un plus grand marché à la disposition de leur industrie. Mais ils vont comprendre par le même effet que s'ils veulent que les pays avec lesquels ils doivent échanger, qui sont dans la zone, puissent acheter leurs produits, il faudrait que ces pays aient quelque chose à vendre. S'ils n'ont absolument rien à vendre, ils ne peuvent pas acheter les produits que, bon, c'est ceux qui sont appelés, ou ceux qui sont les grandes économies de la zone actuellement, ou sont appelés à devenir les grandes économies de la zone, pourront profiter substantiellement de la zone. Parce qu'en fait, ça crée une protection entre la zone et les autres pays qui ne sont pas dans la zone, notamment les autres pays européens.
Parce que ça donne... Comment ?
Ça donne une préférence aux gens qui sont dans la zone.
Mais déjà, est-ce qu'on ne voit pas que les Maliens, quand on prend l'exemple, préfèrent souvent acheter quelque chose qui vient d'ailleurs que consommer
oui, ce mais
qui est local?
Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est ce que Bourdieu a appelé, et comment on appelle ça, les dépenses ostentatoires, c'est-à-dire se faire voir. Hein? Et bon, ça, c'est d'un niveau sociologique. Vous le voyez dans nos baptêmes, dans nos mariages. La majeure partie des dames viennent avec des bijoux. Moi, je m'amuse à évaluer le montant de l'argent qui se trouve sur elles. C'est des millions. Et là, on voit où l'argent du Mali s'en va.
Justement, donc, dans ce cas,
ce n'est pas l'essentiel des dépenses pour revenir à ton truc. Il y a les dépenses de consommation nécessaires. D'ailleurs, si vous regardez au niveau du Mali, les gens, qu'est-ce qu'ils dépensent leur argent pour quoi? Pour s'habiller, pour manger et pour paraître. Et tout tourne autour de ça. Ça, c'est des dépenses substantielles dans le budget d'un Malien. Bon, mais de temps en temps, être mieux que son voisin, avoir quelque chose que le voisin n'a pas, est assez attirant, pas seulement au Mali, c'est dans tous les pays, vous trouverez...
Oui, mais cet espace est créé pour les consommateurs. Oui. L'industrie également est créée, on produit pour des consommateurs. Oui. Et si les consommateurs ne veulent pas du local et vont généralement vers ce qui est de l'extérieur.
Je ne suis pas d'accord, parce que quand vous présentez la chose comme ça, c'est comme ils ne veulent absolument pas du tout. Ce qui n'est pas vrai. ils peuvent vouloir quelque chose, ce qu'ils appellent la distinction sociale pour se démarquer des autres, mais ça ne veut pas dire que le gros de leur achat va vers ça. Non, ça, bon, aux États-Unis, ça s'est passé au départ avec l'industrie automobile. Bon, les gens achetaient des voitures japonaises parce que c'était plus joli. Il y avait beaucoup d'électronique dedans. Et c'était des voitures sécurisées. Mais très vite, les gens se sont rendus compte que Made in America était ce qui leur convenait le mieux. Parce que circuler dans des grosses voitures sur le highway des États-Unis, qui vous donne un sentiment de liberté, tu ne pouvais pas l'avoir avec une petite voiture japonaise. Et donc, ils se sont retournés là-dessus. Bon, et puis le Japon a compris qu'il fallait faire alliance avec les grandes compagnies automobiles américaines pour pouvoir subsister aux États-Unis, et c'est ce qu'ils ont fait. Bon, non, je veux dire, ce type de dépenses existe toujours, ça existe dans n'importe quel pays, mais le fait est que dans nos pays, ce qui va se passer, on sera obligé de s'engager vers l'industrialisation.
D'accord. Étienne, qu'est-ce que cette zone va changer dans la consommation du Made in Mali chez les Maliens ?
D'abord, il y a un aspect important que vous avez soulevé qui est le problème de concurrence. Parce que la concurrence en elle-même n'est pas une mauvaise chose en soi, puisque la concurrence favorise la compétitivité. Et la compétitivité favorise l'innovation. Et l'innovation favorise justement la satisfaction à des degrés incommensurables du consommateur. Donc de ce point de vue-là, il est important même pour nos économies de faire face à cette concurrence-là. Parce qu'on peut dire aujourd'hui que le fait que nous sommes en retard sur ce plan-là, c'est parce qu'il n'y a pas de compétition, parce que les entreprises n'innovent pas, parce que les entreprises ne créent pas de nouveaux produits ou de produits attirants. Donc il y a, en marge de l'encadrement de cette politique de concurrence, il y a bien entendu un certain nombre de politiques aussi de stimulation qu'il faudra mettre en place pour favoriser la consommation locale. Parce que c'est ça aussi le problème. Comment favoriser le Made in Mali ? Comment favoriser la consommation domestique ? On ne peut pas, face à un consommateur, il a, comme on le dit, il est rationnel. Il regarde son budget, il regarde le produit, et quel est le produit de meilleure qualité qu'il peut avoir à un coût raisonnable. Et donc, le choix se fait sur cette base-là. Si les produits qui viennent de l'étranger sont moins chers et peuvent le satisfaire sur le court terme, il est tenté d'aller vers ces produits-là. Donc, il faut, de mon point de vue, arriver à la création de cette véritable politique économique, de cette véritable politique industrielle et de cette véritable politique de commercialisation de nos produits. Et pour l'instant, c'est justement ce qui manque à nos économies. Parce que l'ensemble des politiques économiques mises en place dans nos différents États, des politiques, des conventions qui sont mises en place dans nos États, tirent leur pertinence de ce que dictent les organisations internationales, de ce que dictent les institutions de Bretton Woods. Donc, qui se trouvent souvent être en déphasage avec les besoins réels de nos économies. Donc, vous voyez que dans ce contexte-là, il faut véritablement une réappropriation de nos économies par nous-mêmes pour que véritablement nos politiques, nos mécanismes de création de richesses soient conformes aux besoins de nos populations.
Selon vous, pourquoi il y a ce manque de politique industrielle, économique, adaptée à nos contextes ?
Bon, l'inadéquation est entre, effectivement, comme il vient d'évoquer Étienne, les politiques par rapport aux réalités de nos besoins se posent à plusieurs niveaux. D'abord, quand nous essayons de voir au niveau de nos politiques, réellement, il manque de véritables politiques économiques efficaces qui sont adaptables à la réalité du contexte. Par exemple, quand on prend le Mali, vous trouverez que même récemment, tout simplement, je vais donner un exemple patent. Le Fonds monétaire international avait octroyé, sinon alloué un fonds au Mali, mais dont la majeure partie de ces fonds devrait être orientée vers des secteurs qui ne sont pas le socle du développement. Bon, naturellement, ça va remettre en cause notre décollage économique, parce que tout simplement, il faut que les fonds qui doivent être mis à la disposition de nos États puissent être des fonds souverains, des fonds qui doivent être utilisés sans conditionnalité avec nos États.
Dans ce genre de contexte, est-ce que le pays est obligé d'accepter ?
Bon, l'acceptation ou pas, ça se discute. Bon, là, ça se discute parce que, tout simplement, le pays n'est pas obligé d'accepter. Mais quand on a faim, on n'a pas à manger, on est obligé d'accepter pour ne pas mourir de faim.
Donc, le Mali a faim.
Oui, le Mali a faim.
Et comment faire pour que cette insécurité alimentaire, entre guillemets, que vit le Mali, puisse être, comment dirais-je, solutionnée?
Ben, disons que... Depuis qu'on a lancé l'initiative RI, il y a des avancées certaines qui ont été effectuées dans ce domaine. Et le but, c'était d'augmenter l'échelle de production pour que le Malien ait à manger, qu'il n'y ait pas la marche du riz comme au Sénégal ou comme en Égypte, ce qui a fortement réussi parce que la production de riz a presque quadruplé au Mali.
Mais certains pensent que la plupart, une bonne partie de ce riz est exportée.
Ben, ça, c'est une politique interne au pays. Ça, il faut vous adresser au ministre de l'économie et des finances.
La question principale, aujourd'hui, pourquoi n'arrive-t-on pas à trouver une solution à cela? Est-ce que c'est un problème d'homme? Est-ce un problème de compétences? Qu'est-ce qui manque au Mali pour pouvoir mettre en place toutes ces mesures que vous proposez?
Disons que la planification et la politique économique ont cessé d'exister au Mali depuis la fin du régime de Modibo Keïta. Après, les gens ont fait du pilotage à vue, ont fait ce qu'on leur proposait, ce que leur proposaient les organisations internationales. Et bon, et si vous regardez le nombre de projets qui est créé au Mali, mais est-ce qu'un jour ils se sont assis pour voir quelle peut être la connexion pour développer les synergies de ces projets? Il n'y en a pas eu. On va un projet, d'ailleurs, les Maliens, ils sont très spécialisés dans ça. Tu vois un groupe de Maliens dans un grain, ils boivent du thé, on va monter ce projet. Une fois qu'ils ont monté le projet, où est-ce qu'on va chercher le financement? Parce que les autres doivent travailler pour leur donner leur argent pour qu'ils se développent. Et ça, c'est une mentalité qui fait que les gens ne sont pas là pour créer la connectivité entre les différents projets de développement dans notre pays. En tout cas, à ma connaissance, ça n'a pas existé depuis la fin du régime de Modibo Keïta. Bon, et si la création du ZLECAF peut permettre de réinitier ça, de remettre les pendules à l'heure...
Justement, est-ce qu'elle peut permettre cela? Oui, pour les gens façon de travailler est dictée par l'Occident, comment ces gens vont travailler librement pour changer?
Non, parce qu'ils seront dans un... Vous savez, la majeure partie de ces petits pays sont des pays insécurisés. Ils ont tous peur de prendre une décision seule. Regarde le problème du franc CFA. Si on n'avait pas parlé d'unité monétaire dans toute la zone, aucun des pays de la zone franc n'aurait osé en parler. Celui qui en parlait était débarqué. Et c'était comme ça que ça fonctionnait. Bon, maintenant qu'ils sont dans un grand ensemble, ils se sentent un peu plus forts. C'est la même chose entre nous et les pays développés, et c'est la même chose entre les pays développés eux-mêmes. Ils s'adossent tous aux États-Unis. Quand les États-Unis disent « on va faire ça », ils se lèvent tous pour aller le faire. Si tu ne fais pas, tu as des mesures de représailles. Et c'est comme ça que ça fonctionne. La géopolitique internationale est basée sur la force. Il y a certains qui mettent un peu de liant dedans pour harmoniser les choses et caressent les gens dans le sens du poil. Mais la réalité, c'est la force. C'est la force brutale. Ça a été le cas de la guerre de l'Irak. Le président Mitterrand ne voulait pas y aller au départ. Le père Bush lui a dit, si vous n'y allez pas, vous n'aurez rien là-bas, et deux, il y aura des mesures de rétorsion. Il a envoyé ses militaires. Et c'est comme ça.
D'accord. Docteur Étienne Fakaba, est-ce que vous pensez que c'est un problème d'homme, de compétence ou une peur, comme le signale le professeur Bouhari?
De mon point de vue, c'est le tout à la fois. Parce que avoir peur est un sentiment dont fait face les hommes. Et c'est le caractère de l'homme, c'est l'audace des hommes qui peuvent transcender cela et prendre des décisions courageuses. Malheureusement, nous manquons, en tout cas dans nos pays, ces hommes courageux à l'image de Modibo Keïta pour justement faire face à ces défis-là aujourd'hui. C'est un problème également de moyens parce que il faut pas qu'on se leurre. Pourquoi nous acceptons de l'argent qui vient pour, par exemple, le développement de pour la lutte contre la désertification, qui est, de mon point de vue, un thème important, ou qui est, par exemple, la préservation de l'environnement et toutes ces questions-là. Alors qu'au même moment, tu as des gens qui ne mangent pas trois fois par jour, tu as des gens qui... Et je sais que vous tenez à cette thématique de l'environnement, mais c'est cela aussi la réalité. Oui. C'est que nous sommes obligés, souvent, d'accepter des fonds dans des secteurs qui ne sont pas des secteurs prioritaires, qui ne sont pas des secteurs dont dépend la survie de l'homme, en tout cas dans l'immédiat.
Mais à quoi parce que à long terme, toutes comme les ressources du Mali.
Comment
on entend généralement que nos ressources sont exploitées par un pays ou un autre. Est-ce que nous-mêmes nous profitons de ces ressources?
Absolument pas. Prenez par exemple le deuxième secteur qui intervient dans la constitution de notre PIB, les mines. Nous sommes aujourd'hui à moins de 20% encore de participation de notre État à ce secteur-là. Nous n'avons pas d'unité de raffinage de ce secteur-là, donc faible création de valeur ajoutée. Vous prenez les autres ressources, les autres ressources naturelles. Vous voyez que nous n'avons pas les moyens suffisants pour justement extraire ces produits-là. Donc, ce qui fait que il y a un certain nombre de cas où nous avons les ressources, nous avons les hommes, mais nous n'avons pas la ressource financière pour y faire face. Donc, de ce point de vue-là, on courbe les chines devant les puissances internationales qui, eux, ont les technologies, ont les moyens. Aussi, je veux vous rappeler que cette zone doit favoriser en principe, en marge du protocole qui a été rappelé par le professeur, parce qu'une chose est de mettre en place ces protocoles, une autre est de les respecter, ce qui n'est pas garanti dans le contexte actuel. Quand vous prenez cela, il y a un transfert de compétences, un transfert de technologies qui doit accompagner justement nos processus de commerce. Mais vous voyez que dans l'état actuel, quand des entreprises chinoises viennent construire des choses, vous savez comment ça se passe. C'est la nuit que les parties dotées de plus de technologies, de plus de d'habilités sont réalisées. Et pendant que nous, on est en train de dormir. Donc du coup, il y a un autre travail de fond qu'il faudra faire pour que le protocole qui a été mis en place soit véritablement respecté sur tous les plans. Que ça soit sur un plan purement du commerce de biens et de services, que ça soit sur le plan du transfert de compétences, du transfert de technologies, que ça soit sur le plan également de la libre circulation des personnes et de leurs biens, que ça soit également sur un plan purement de fluidité dans le commerce au niveau de nos différents pays. Donc il y a, de mon point de vue, un travail à faire dans nos pays respectifs. Il y a des hommes à rechercher et à trouver pour porter ces politiques économiques, ces politiques commerciales. Et il y a un travail à faire au niveau communautaire également, qui est de veiller à l'application stricte de ce qui a été convenu dans la création de cette zone-là.
D'accord. Pour ce travail, est-ce que les universitaires, les chercheurs, les spécialistes jouent leur rôle pour que ça puisse être une réalité?
Bon, effectivement, les spécialistes et les universitaires jouent effectivement leur rôle, mais la question qui reste à savoir, est-ce que les conseils ou même les orientations que ces mémoires collectives ou bien l'intelligence collective ou en un mot l'opinion publique intellectuelle que vous venez d'évoquer sont écoutées par les décideurs politiques? Parce qu'il y a un problème. Les universitaires sont des conseillers spécialisés. Ils doivent conseiller et donner des orientations au pouvoir public. Et ces conseillers ne sont pas forcément les détenteurs du pouvoir. Donc, est-ce que les universitaires, les conseils qu'ils donnent sont pris en compte? Et récemment, je suis l'actualité, le docteur Etienne était, je crois, conseiller à la présidence, sauf erreur de ma part. Mais est-ce que les conseils ou même les prérogatives qu'il a dû soumettre à l'appréciation des autorités ont été appliquées à la règle? Donc là, ça, c'est des questions qui restent en suspens. Donc, même s'ils donnent des conseils, des orientations, il faut que les autorités puissent appliquer ces conseils-là pour que nous puissions sortir de l'ornière et permettre le décollage économique de nos pays respectifs et même permettre aussi également la participation, sinon l'insertion de l'Afrique au commerce international. Parce que n'oublions pas, on a deux défis à relever. Le premier défi, c'est de développer le commerce intra-africain d'abord entre nous-mêmes. Et le second défi, c'est de faire face à l'insertion au commerce international. Parce que l'Afrique doit former un marché commun qui doit faire face au reste du monde. Parce qu'avec ça, nous devrons être quand même en mesure des attentes. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'énormes défis, hein, je ne sais pas si on va en venir, il y a d'énormes défis qui doivent être relevés, notamment les défis liés aux infrastructures. Parce que nous avons, l'Afrique a une économie en général dualiste et désarticulée. C'est-à-dire tout simplement, le secteur primaire et le secteur secondaire ne sont pas complémentaires. Donc si cette complémentarité n'est plus de mise, n'est pas mise en place, on ne saurait se développer. Ça, c'est le premier aspect. Maintenant, le second défi, c'est par rapport aux infrastructures. L'Afrique, pour que nous puissions davantage bénéficier de la ZLECAF et de même du commerce international, il faut que nous arrivions à développer un réseau de transport assez conséquent. Parce que même si on crée une zone de libre-échange, si nous n'avons pas la capacité de pouvoir acheminer les biens et les services, ça va poser énormément de problèmes. Et pour revenir au cas du Mali, ce que nous pouvions faire, c'est d'abord de développer les réseaux de transport, notamment aérien, notamment ferroviaire, routier, pourquoi même pas fluvial. Par exemple, le Mali peut créer des ports secs pour faciliter l'acheminement de nos biens aux services via nos pays limitrophes. Bon, même s'il y a la zone de libre-échange, si nous ne disposons pas d'un réseau de transport assez développé comme le Nigeria, l'Égypte et même l'Afrique du Sud, on ne va pas pleinement profiter de la ZLECAF.
D'accord. En termes d'emploi également, est-ce que ça va changer quelque chose pour la lutte contre le chômage au
Mali? Bien entendu. À partir du moment où le commerce se développe, bon, ceux qui sont chargés de la commercialisation seront des structures qui vont créer des emplois. Il ne faut pas croire que je suis libre-échangiste brillant. J'ai écrit sur la question pour remettre en cause tout ce qui existait depuis Adam Smith. Et il se trouve qu'il y a un chapitre consacré à la ligne de démarcation entre le commerce libre et la protection. Et le ministre de l'économie et des finances pourra s'en servir. C'est disponible sur le site web d'Amazon s'il veut s'en procurer.
Est-ce que généralement ils s'en servent, les autorités?
Ah oui, je crois qu'il y a... Si ça va directement dans leurs préoccupations immédiates, en général, bon, ils s'en servent. Mais ils n'iront pas fouiller quelque chose qui doit venir dans 2 ou 3 ans, non. Mais ça, c'est un problème immédiat. Ils rentrent de plein pied, puisque le Mali a ratifié l'accord à Niamey, ils rentrent de plein pied dans cette zone et il faudrait que le Mali se prépare pour pouvoir tirer son épingle du jeu. Et donc, ça va contribuer à développer les choses. L'idée même de jeter les bases d'industrialisation, les bases de l'industrialisation du Mali à partir des agropôles, c'était la création de l'emploi. Les industries de transformation d'abord qui vont créer de l'emploi, qui vont apporter des devises au Mali et qui vont faire face au problème de la sécurité alimentaire. Donc c'était ça. Et à mon avis, le Mali a les ingrédients nécessaires pour le faire. Pour en revenir au problème de prendre l'argent un peu partout, il y a longtemps que notre pays a cessé de se prendre en charge. On croit qu'en invoquant le bon Dieu, on va avoir de l'argent pour régler nos problèmes. Eh bien non. Et les autres ne travaillent pas pour nous donner leurs sous. Ils travaillent ici pour obtenir ça. Il faudrait que les gens comprennent dans notre pays qu'il faut travailler pour atteindre ce que les autres ont obtenu. Et le jour où on comprendra ça, on ira de l'avant. Mais pas avant. Les gens pensent quand tu as un bœuf rouge ou noir ou un égrenal et chapelet, par la force du Saint-Esprit, on va tout avoir.
Êtes-vous optimiste par rapport à la réussite de cette...
Ah oui, oui, non, je suis optimiste.
Et vous?
Oui, effectivement, je suis optimiste, mais à la base... Il y a un travail de fond qui doit être établi pour pouvoir optimiser, maximiser notre bénéfice, notre part dans cette union.
Est-ce que le Mali doit profiter de toutes ses ressources humaines et autres pour réussir?
Absolument. Et il en va de la survie de notre pays, de la survie de nos États, mais aussi de la survie de nos économies. Et pour un troisième défi qu'il faudra aujourd'hui ajouter, c'est le défi de la sécurité qui, de mon point de vue, est en train de prendre une ampleur dont il faut faire face pour
la stabilité de nos économies, pour la stabilité de nos différents pays.
D'accord. Pour résumer, la ZLECAF est une bonne chose pour l'Afrique, mais il faudrait qu'elle soit accompagnée d'un certain nombre de mesures, notamment sécuritaires, notamment des infrastructures et notamment une bonne politique également industrielle et une politique économique. C'est l'analyse de nos trois économistes qui étaient invités de ce grand dialogue. Professeur Oumar Boiré, chercheur au Centre de recherche en sciences économiques et sociales Nkoni, et Wally Tekete, également docteur Etienne Fakaba Sissoko du Centre de recherche et d'analyse économique, politique et sociale CRAPES. Je suis Mouhamadou Touré à la régie vidéo et audio, Peting Diara et Mamadi Keïta. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halou Dumani.
Chenni Beri.
Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.